On veut bien être gentil, mais pas con.
La première chose qui te saute aux yeux, les briques, c'est les briques rouges.
C'est le capitalisme. Ne jouez pas au con avec lui.
On est trop gentil.
Le rouge, c'est la couleur du sang. Le rouge, c'est la couleur des Indiens. C'est la couleur de la violence.
On est gentil. Hein? On est toujours gentil.
C'est le capitalisme. Le
rouge, je veux dire, arrête-toi.
Mais le rouge, c'est aussi la couleur du vin. Le vin qui dit vin, dit pot de vin. Parce que tout ça, c'est magouille et compagnie. C'est politico. Tu vois, c'est des histoires de fric.
Je vote pas pour les capitalistes, hein.
Bon, je suis ouvrier.
On est trop gentil.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Campus sur le 106,6 en FM, en streaming et en DAB+. Vous n'avez donc aucune raison de ne pas nous écouter.
Aucune.
Aucune. Aujourd'hui, on passe au rouge avec une belle brochette d'invités, puisqu'on a deux chefs de file de formation politique et un directeur de campagne, on peut le dire, d'une autre
tout ça
formation.
Puisqu'on pour a Lille.
Tout ça pour Lille. Rien que pour Lille, et pour parler des municipales qui auront lieu le premier tour le 15 mars prochain. On a Hugo Van Damme, qui est secrétaire de la section du PCF. Bonjour Hugo
Van Damme.
Bonsoir
à tous.
Bonsoir. Alexandre Chantry, qui coordonne Résistance Populaire, un collectif dont on a parlé la semaine dernière. Bonjour Alexandre Chantry.
Bonjour et merci d'ailleurs d'en avoir parlé.
Bah oui, c'est vrai. Aurélien Lecoq, qui est alors responsable des Jeunes Insoumis et directeur de campagne pour la France Insoumise. Bonjour.
Bonsoir.
Ce ne sont pas les seuls êtres humains qui sont sur le plateau ce soir.
Et il y a toi qui réalise cette émission, voilà. Passe au Rouge, depuis 2 ans, bientôt, je crois, quelque chose comme ça.
Et puis Massilia. Il y a toi, Laurent Grosdada,
oui,
qui anime cette émission.
Et Massilia, qui est là pour,
salut.
Pour tenir cette brochette de politicard. Vous allez voir, ils ne se tiennent plus, ils ont besoin de quelqu'un comme Massilia pour tenir. C'est vrai, hein, Massilia.
Oui, un peu de stalinisme n'a jamais fait de mal à personne.
On peut annoncer quand même là tout de suite qu'il y a un rassemblement demain pour les hôpitaux à Lille et un petit peu partout. Mardi, le 15 octobre.
Alors, exceptionnellement, il n'y aura pas, vous l'avez entendu, le talon de fer. On va passer une heure en compagnie de nos invités pour aborder un peu plusieurs points qui questionnent les militants à gauche, puisqu'on le voit tout de suite, si on s'intéresse un peu à la politique, vous ressemblez en termes politiques tous. On va commencer pour voir un peu quelle est l'approche particulière de vos différents mouvements. Comment vous abordez, avec le PCF, avec l'AFI, avec Résistance Populaire, ces élections municipales qui arrivent.
Dont le premier tour sera le 15 mars.
Alors, pour la France Insoumise, vous avez donc créé un collectif qui s'appelle Décider pour Lille, donc avec des citoyens. Comment vous vous y êtes pris et qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ?
Aurélien Lecoq.
Alors, la France Insoumise a, à la fin du mois dernier, en septembre, désigné à Lille ses deux chefs de file, Élodie Chloé et Julien Poix, que j'excuse d'ailleurs de ne pas pouvoir être là ce soir puisqu'ils avaient un empêchement. Comment on fait? Où est-ce qu'on va? L'élection municipale, pour nous, c'est une élection qui est particulièrement importante. C'est le premier échelon de la démocratie. C'est l'élection qui gère finalement l'ensemble des problèmes quotidiens ici à Lille, des Lilloises et des Lillois. Et donc, c'est une élection dans laquelle on s'engage à plein. Mais on a décidé de l'aborder de manière un peu différente que les élections habituelles. On ne veut pas refaire simplement une belle liste France Insoumise avec des filles et nos logos partout, ça aurait été possible. À Lille, la France Insoumise se porte bien, on a 2 députés, on a un bon collectif militant. Mais on veut justement s'attaquer à un problème particulier, c'est le problème de l'abstention. Si c'est le premier échelon de la démocratie à Lille, aujourd'hui, elle est malade. Elle est malade d'une gestion socialiste et d'une municipalité qui, déjà depuis 3 mandats, étouffe la démocratie et tout ce qui pourrait faire bouger et mettre en mouvement les Lilloises et les Lillois. Alors on a décidé de faire autrement. Plutôt que de dire nous allons faire un beau programme, une belle liste et la présenter aux citoyens, on va aller voir les citoyens et leur dire voilà. Nous, on a créé un collectif. Dans ce collectif, vous avez votre place. Dans ce collectif, vous pouvez apporter vos idées, vos revendications. Et à la fin, ce collectif, il sera représenté par une liste sur laquelle vous pouvez être. C'est-à-dire que plutôt que de nous faire confiance à nous, faites-vous confiance à vous et venez porter vos propres idées, vos propres revendications sur la liste. On a appelé ça « Décider pour Lille ». Donc pour l'instant, ce collectif est plutôt une forme d'appel. Nous avons annoncé la démarche dans laquelle nous voulons nous inscrire. Et on va travailler à partir de maintenant à lui faire prendre vie. Alors à la fois en allant à la rencontre des citoyennes et des citoyens, c'est la première étape, via des porte-à-porte, via des enquêtes de quartier et de terrain, mais aussi en discutant avec toutes les associations, syndicats ou mouvements et organisations politiques qui, eux aussi, en tant que militants, en tant que personnes qui veulent faire bouger les choses dans cette ville, ont aussi leur place à l'intérieur de ce collectif Décidé pour Lille.
Merci beaucoup. Alors pour Hugo du Parti communiste français, la question c'est, vous avez plutôt interpellé les autres partis, notamment à base de mails. Qu'est-ce que vous pouvez également nous en dire ?
Oui, alors on a continué à discuter déjà depuis longtemps. On a refait comme un...
Lui c'est Hugo Vandamme.
Voilà, donc dès janvier, effectivement, on a réinterpellé l'ensemble des forces politiques du NPA, Génération, passant par la France Insoumise et Ensemble et d'autres, pour se dire qu'on avait sans doute des choses à faire ensemble. Dans les forces politiques, on trouve des citoyens qui ont à cœur de faire de la politique et d'avoir leur mot à dire sur ce qui se passe. On sait que ça ne suffit pas, qu'il y a sans doute plein d'autres personnes qui veulent faire de la politique qui ne sont pas dans les partis, mais il nous semble que les organisations politiques... jouent leur rôle en fait en faisant des propositions et on souhaite qu'on les fasse le plus collectivement possible. Effectivement, en juillet, on a lancé un appel, alors un peu sous la forme d'un clin d'œil. En fait, c'était d'une petite annonce. En gros, communiste bien sous tout rapport, cherche partenaire pour rendre leur ville meilleure. Et dans les cas, on s'est dit, on va pas partir d'une page blanche. Les communistes, ils ont déjà des propositions. On a porté des listes avec d'autres en 2014. On a été présents à de nombreux scrutins. Et donc, on ne va pas faire semblant. Par contre, il y a, pour nous, un programme, ça se co-construit avec d'autres. C'est notre souhait. Par contre, il y a des priorités qui nous semblent, à laquelle nous sommes attachés et sur lesquelles on préfère dire tout de suite, ces priorités-là, on veut les porter, on souhaite les porter. Est-ce que vous avez envie de les porter? Et donc, ça ne s'adresse pas simplement à des forces politiques, mais effectivement, là, on a interpellé des forces politiques, mais aussi tous les citoyens pour savoir qu'est-ce qu'ils ont pensé. Et donc, autour de ça, on a rencontré des forces politiques qui se veulent de gauche. On n'a pas mis de barrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on s'est dit on va s'attacher au fond. La question, c'est de savoir si aujourd'hui, il y a des gens qui sont d'accord pour dire que demain, il doit y avoir des transports en commun gratuits sur la métropole illoise. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que la démocratie de proximité, la citoyenneté active, c'est une priorité ou pas? Est-ce que le logement est une priorité? Est-ce que l'emploi est une priorité? Et autour d'une déclinaison de certains points, c'est sur du fond politique qu'on s'est attaché, en gros, à interpeller à la fois la population et des forces politiques, à laquelle beaucoup nous ont répondu et d'autres ne nous ont pas répondu. Je vais dire, ceux qui ne nous ont pas répondu, ça allait beaucoup plus vite, puisque Europe Écologie Les Verts, par exemple, ne nous a pas du tout répondu et n'a pas l'intention de le faire.
Vous avez adressé donc un courrier nominatif, quoi. Alors,
tout à fait.
Alors QG, enfin, alors secrétariat, et il n'y a pas eu de réponse du tout, rien.
Il n'y avait pas eu de réponse de la part d'Europe Écologie Les Verts, oui.
C'est ça, voilà, ouais, rien du tout, comme non. Si de rien n'était, ok.
Voilà, bon. Mais donc à partir de là, en fait, nous, on s'attache à savoir qui est capable de porter avec nous ces priorités-là et ensuite étoffer pour être dans une phase de co-construction d'un programme. Parce qu'il ne s'agit pas pour nous d'imposer un programme en disant voilà la liste de ce qui nous semble être le bon programme, si vous voulez, on suit. C'est une pratique qui peut se faire, je veux dire, mais ce n'est pas la nôtre. Par contre, afficher des priorités, ça nous semble être du fond politique pour dire ce sur quoi nous sommes le plus attachés. Et donc, c'est sur cette base-là, en gros, qu'on souhaite continuer à construire avec d'autres.
Très bien. Donc ma dernière question s'adresse à Alexandre Chantry, donc qui est là pour Résistance Populaire. Donc vous avez créé Résistance Populaire avec des gilets jaunes. Et donc comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire également?
En effet, dans notre collectif, il y a des gilets jaunes, mais pas
vous
que.
Vous êtes toujours un gilet jaune, Alexandre Chantry?
Alors plus maintenant. Plus maintenant, parce qu'en effet, là, on travaille énormément sur Résistance Populaire, donc ça nous prend un temps fou. Et voilà. Nous,
c'est juste une question de temps.
Oui, bien sûr, on soutient toujours le mouvement. Donc nous, en effet, on a construit avec des gilets jaunes, mais pas que. Il y a des anciens militants de divers partis. Il y a également des citoyens qui étaient engagés, mais qui ne s'étaient jamais vraiment engagés dans des partis politiques, dans des structures. Alors nous, quelle a été notre réflexion? C'est qu'on a remarqué, notamment dans les gilets jaunes, que les gens, bah oui, ils étaient politisés, oui, ils avaient envie d'agir, mais peut-être qu'ils se retrouvaient plus simplement dans les structures traditionnelles de partis verticales, où justement, ils avaient envie d'arriver dans une structure qui prônait l'horizontalité absolue avant toute chose. Donc nous, On n'a pas la prétention non plus d'être un parti de masse. On fait nos choses avec nos petits moyens. On réussit à rassembler pas mal de monde sur nos réunions. Et surtout, bah, en effet, on est dans une écriture collective du programme. Donc là, pour l'instant, voilà, c'est notre démarche, c'est vraiment ça. C'est à la fois mélanger l'éducation populaire, parce que dans toutes nos réunions, on fait en effet des points techniques sur certains sujets. Et surtout, bah, on travaille ensemble sur des propositions concrètes. Et c'est très vigoureux parce que bah, sur la dernière réunion, par exemple service public ou alors travail économie auquel vous avez assisté, on a 66 propositions concrètes qui ont été formulées. Après ces 66 propositions concrètes, on peut pas tous les mettre dans un programme municipal. Par exemple, on a certains sujets qui relèvent du national qui ont été évoqués, mais nous réellement on travaille comme ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de verticalité, il n'y a pas forcément de chef de file, de directeur de campagne ou ce genre de choses. On travaille tous ensemble, on vote tous ensemble. Et ça nous semble important parce que les gens qu'on a rencontrés dans le mouvement des Gilets jaunes, ils attendaient ça, ils aspiraient à réellement quelque chose d'horizontal, démocratique, où tout était discuté, il n'y avait pas de tabou, il n'y avait pas de sujet qui était mis de côté, qui était gardé pour un petit cercle. Nous, on travaille en collectif et bien sûr, on va continuer de travailler comme ça. Là, on est à un rythme d'une réunion par semaine sur des sujets bien précis. La prochaine, c'est vendredi, écologie et environnement. Et aussi, un autre point, ce qui nous semblait important, nous, ce n'était pas forcément de faire du tract pour faire du tract et de perdre des sous qu'on n'a pas forcément pour l'instant. Donc là, aujourd'hui, on est dans une phase aussi, en plus des réunions, c'est d'aller dans les quartiers avec nos questionnaires. Et plutôt que de tracter, on demande aux gens simplement ce qu'ils veulent en fait pour leur mairie. Et on a déjà, en tout, entre les questionnaires donc numériques, on a déjà plus de 600 réponses. En papier, on doit être sur du 200-250, j'ai pas tout compté, désolé. Mais voilà, c'est un très bon début, sachant qu'on a lancé les questionnaires il y a à peine 2 semaines et demie. Hein, donc.
Alexandre Chantry, après j'arrête de vous enquiquiner là-dessus, mais quand même, hein, quand même, les Gilets jaunes, c'est quand même un mouvement social historique que nous avons suivi d'une façon précise et attentive sur cette antenne et dans cette émission en particulier. Vous écrivez sur les réseaux sociaux il y a quelques jours, la lutte n'est pas finie, mais les GJ le sont, il faut voir les choses en face. C'est fini les Gilets jaunes?
Bah, on est quand même dans une phase où il y a une grosse baisse des mobilisations et je pense que l'esprit Gilets jaunes demeure et restera de toute façon. Mais en effet, il y a beaucoup de Gilets jaunes qui ont rejoint d'autres luttes et on a repolitisé un ensemble de la société. Moi, c'est sûr que, en effet, pour moi, le mouvement aujourd'hui, c'est compliqué d'obtenir ce qu'on souhaitait au départ, c'est-à-dire la démission du gouvernement, peut-être une dissolution de l'Assemblée nationale, peut-être une constituante. Là, dans le format actuel, c'est compliqué parce qu'en effet, hein, la semaine dernière, il y avait 15 000 personnes, je crois, sur tout le territoire français. Donc voilà.
Et à Lille?
À Lille, si je dis pas de bêtises, c'était 230. Mmh. J'en crois les organisateurs.
Je voudrais qu'on revienne un peu sur
pas la police.
Et pas la police.
D'accord.
Pas la
police. Vous n'avez pas basculé jusque-là.
Vous n'avez pas basculé jusque-là. Oui. Je voudrais qu'on reprenne un peu parce que sur ces municipales qui arrivent, on voit bien les démarches, elles sont différentes. Mais ce qui nous intéresse là, c'est ce qui vous rassemble. Et je pense que dans votre programme, dans vos programmes, on va trouver des points d'accroche, quoi.
Donc la question, ce serait si vous deviez donner des caractéristiques à vos programmes et dire quelles sont les idées principales que vous voulez le plus défendre aujourd'hui, par exemple pour...
Alors qu'en réalité, pour deux des formations présentes sur le plateau, c'est-à-dire Résistance Populaire et puis LFI, les programmes sont en cours de construction. Je crois que c'est fait hein, pour le PCF, Hugo Vandamme.
C'est pas ce que j'ai dit, ouais, oui, tout à fait.
C'est l'inverse.
Il faut écouter un peu ton émission.
Ah oui, voilà, il y a des lumières rouges qui clignotent de partout.
On a affiché des priorités, des axes programmatiques, c'est vrai. Par contre, le programme, il laisse encore beaucoup de place en fait, à de nombreuses propositions. Ce qui n'empêche pas, nous, en tant que force politique, d'avoir déjà en fait, de nombreux points programmatiques et même être en capacité, pour être clair, en gros, de construire un programme seul. Mais ce n'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est bien de le co-construire. Toutefois, nous avons effectivement des points de programme et des priorités au sein de celui-ci.
On va vous demander d'être rapide sur ce tour de table. Oui.
Mais est-ce que tu pourrais nous donner quelques éléments qui caractérisent votre programme et que vous défendrez PSG?
Attends, j'ai pas compris. Tu le tutoies ou tu le vouvoies là?
Les deux un peu, mais en même temps. Genre, je suis un peu bipolaire parfois. Tu vois.
Bon, on va faire comme si autour de la table, les gens se côtoyaient pas.
Oui, vous connaissez tous les trois. Là.
Oui, tout à fait.
On s'est tous déjà rencontrés en dehors de ce plateau. Je ne peux pas dire tous les points. Par contre, effectivement, moi, je vais quand même en citer trois, même si je pourrais aller sur bien d'autres. Mais à mon avis, il y a quand même sur la question de la démocratie, sur la question de l'emploi ou sur la question du logement, trois points qui me semblent effectivement être des points prioritaires sur lesquels nous avons beaucoup de points à avancer. Alors, c'est dans le désordre, mais pour prendre la question du logement, sur la question du logement, effectivement, il y a... En gros, il faut lutter contre la spéculation. Lutter contre la spéculation, c'est souvent un terme d'ailleurs qui est repris par beaucoup. Mais il y a des points très précis sur lesquels on peut aller, à la fois sur les questions de la fiscalité. Par exemple, comment on fait pour augmenter la taxe en gros, sur le foncier non bâti, de manière à faire accélérer des projets. Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi des terrains en gros, qui sont immobilisés. Le temps d'attendre que le terrain prenne de la valeur avant d'y faire construire des logements. Ça, par exemple, ça peut se combattre. C'est quelque chose qui est aussi dans les mains d'une commune. Hein. Donc c'est pas intentatoire, c'est pas simplement dans l'attente que le national pourrait décider de quelque chose. C'est quelque chose qu'on peut réaliser à l'échelle locale. De la même manière qu'on peut aussi agir en fait sur la question des prix. Alors à la fois, nous par exemple, il nous semble important en fait de mettre en place et de manière très très poussée en gros, le permis de louer. Le permis de louer, c'est quelque chose sur lequel c'est un levier pour le coup en plus juridique qui existe, sur lequel on peut agir. Et puis il va falloir aussi agir sur la question des logements en fait qui sont isolés, de manière à pouvoir agir dans des quartiers où aujourd'hui les logements sont à la découpe. C'est-à-dire qu'en gros, à la fois dans une barre d'immeubles d'un logement social, les prix sont globalement homogènes, alors que dans un quartier pour prendre le cas d'Oisem ou de Moulins par exemple, dans lequel il y a beaucoup de bâtiments appartenant à des propriétaires privés avec des logements dans lesquels il y a une famille.
Et oui, tout le monde est témoin de ça, voilà. C'est une réalité lilloise qui est patente.
Et donc là par contre, il y a également possibilité d'agir. C'est plus compliqué techniquement, mais c'est tout à fait possible. Et par contre, c'est l'un des projets. Mais alors si je veux aller sur les trois points et laisser la parole aux autres, il faut que j'aille aussi sur les autres points. Mais
oui.
Sur la question de la démocratie, là aussi... il faut qu'on passe à une nouvelle ère, entre guillemets, la citoyenneté active. On ne peut pas rester là où on en est. C'est quand même incroyable de se dire que ce qui est utilisé par la ville de Lille pour faire de la démocratie de proximité, c'est des conseils de quartier dans lesquels, finalement, il y a assez peu de citoyens tirés au sort, d'autres qui sont nommés. Et puis, les conseils de quartier sont à des échelles assez incroyables, en fait, quand on prend un peu de recul. Un conseil de quartier, c'est l'équivalent, en gros, ça représente l'équivalent de certaines préfectures de France. Un quartier à Lille, c'est entre 20 et 25 000 habitants. Vous imaginez en gros que la démocratie de proximité, c'est en gros pour l'équivalent d'une commune, grosse commune préfecture. Non, ça n'a pas vraiment de sens. Il faut repenser en gros les échelles. Majat à Fombelle, ça c'est un quartier. Pas Oisem. Oisem, c'est grand comme une commune et pas une petite. Pour l'île sud, les 400 maisons, c'est un quartier, mais pas l'île sud. Je pourrais les énumérer un par un. Ça n'a pas beaucoup de sens, mais vous voyez un petit peu le principe, là où est-ce qu'on veut aller. Et donc, il y a beaucoup de points sur lesquels, effectivement, il faut aussi accepter que demain, un conseil municipal se détache de son pouvoir pour le restituer à la population, notamment dans ce type d'espace démocratique.
Ça hoche de la tête, là, sur le plateau.
Ouais. Oui, parce que, voilà.
Faut le dire, là.
Et enfin, sur l'emploi, donc, puisque j'ai resté trois points, mais je disais, j'en énumérerai pas d'autres pour pas être trop long, mais sur la question de l'emploi. Là, je crois que là aussi, quand on habite à Lille, il y a quelque chose qui nous frappe à la vue quand même. C'est que depuis ces dernières années, quelque chose a quand même émergé parmi tout le reste. C'est l'ubérisation du monde du travail. Tout le monde voit les Deliveroo, les Uber Eats, etc. Et il faut agir là-dessus. C'est-à-dire à la fois, il y a une précarisation du monde du travail, une ubérisation du monde du travail et des salariés qui ont toujours moins de pouvoir. C'est-à-dire des petites structures, un manque de représentants du personnel, difficulté pour les organisations syndicales d'agir au sein des entreprises. Nous, aujourd'hui, on pense qu'au contraire, il faut contrecarrer les appétits des Carrefour et des grands groupes qui, eux, ont une force de frappe gigantesque pour pouvoir créer des entreprises. Et donc, par rapport à ça, nous, on pense qu'il faut agir au niveau local en utilisant les maisons d'emploi, etc., pour influer la création de SIG, de SCOP, dans lesquels, pour nous, ce n'est pas anecdotique parce qu'à la fois, c'est... on crée de l'activité, on crée des emplois, on répond à des besoins et aussi on redonne le pouvoir aux salariés puisque ce sont les salariés qui ont le pouvoir dans les entreprises, dans le cas des SCOP.
Merci voilà. Beaucoup,
là,
Hugo.
Là, c'était Hugo Vandamme pour le PCF. PCF.
Mmh. Et du coup, on peut poser exactement la même question à Alexandre Chantry, donc pour Résistance Populaire.
Alors, moi, on m'avait parlé de mettre en avant 4 points, donc je vais essayer d'être très rapide. Et surtout, j'ai eu mandat pour ces 4 points, donc voilà, je m'y tiens. Alors d'abord, la première des propositions, nous, qui semble... évidente, c'est la gratuité des transports en commun et pas uniquement sur les jours de pic de pollution. Alors pourquoi ? Parce que C'est juste une affaire aussi de courage politique, cette question-là. Parce que depuis 1977, lorsque la communauté urbaine de Lille a cédé la concession de services publics à l'ancêtre de Keolis, bah depuis ces années-là, c'est la MEL qui fait les investissements et bien sûr l'entreprise privée qui récolte les bénéfices. Hein, sous le fameux adage, socialiser les pertes et privatiser les profits. Il faut savoir que Keolis est une société internationale. Elle est sur d'autres villes qui sont très importantes, comme Lyon, Boston, Melbourne, Stockholm. Et aujourd'hui, leur chiffre d'affaires, c'est 5,4 milliards d'euros. Donc évidemment, nous, on propose de mettre en place une régie publique en termes de transport en commun et pour, évidemment, la gratuité en tout temps. Alors à la fois pour une question climatique, parce que vous entendez bien que le fait de rendre gratuit les transports en commun, ça devrait, par effet mécanique, désengorger le centre-ville de Lille, mais également pour une question de justice sociale, parce que bah oui, aujourd'hui, le ticket de métro est hors de prix pour certains, et l'abonnement, on n'en parle même pas. Ensuite, on avait un deuxième point qui était aussi toujours sur la base de la régie publique, c'est concernant l'eau et l'électricité. Nous, on souhaite réellement que ces services publics-là ne soient plus concédés au privé. Aujourd'hui, c'est les eaux du Nord qui gèrent l'eau, par exemple. Et on veut également une régie publique sur cette question-là, qui est l'eau, l'électricité, pour arriver un jour à la gratuité de ces choses qui sont essentielles à la plupart des foyers aujourd'hui. Alors bien sûr, il y a plusieurs modèles de régie publique. Moi, je vais parler de la régie directe, pour ceux qui aiment se renseigner là-dessus. Excusez-moi. Ensuite, c'est aussi sur une question de démocratie. Et c'est vrai que je rejoins assez Hugo. En effet, il faut impliquer les gens et à toute échelle, mais surtout en tout temps. Donc nous, évidemment...
T'as vu, ils s'appellent par leur prénom, c'est bon aussi.
Évidemment, vous n'avez pas loupé que je suis un ancien gilet jaune. Donc nous, on a mis en place la proposition d'un RIC municipal. Alors évidemment, pourquoi mettre en place un RIC municipal et pas un RIP, par exemple? Bah, c'est pour que voilà, les habitants puissent se ressaisir de certaines questions et refaire du politique dans la mairie.
On parle ici de référendum d'initiative citoyenne ou populaire.
Tout à fait. Alors bien sûr, le pourcentage du cortège électoral qui saisira en effet sur ce RIC, bah, on ne l'a pas encore déterminé, ça se décidera plus tard. Alors pourquoi mettre ça en place? Parce qu'aujourd'hui, on remarque que la municipalité devient quelque chose d'administratif, une institution qui vient gérer un budget, un petit budget d'ailleurs de l'État. Et on veut que ça redevienne une institution réellement politique où il y a des choix politiques qui sont faits. On veut aussi mettre en place un mandat impératif pour les élus municipaux. Alors un mandat impératif, pour la faire courte, c'est un mandat où l'élu, enfin le candidat en tout cas, prend un ensemble de comment dirais-je, d'engagements. S'il ne les respecte pas, tout simplement, on met en place un référendum pour savoir si l'élu reste ou pas. On veut aussi mettre, justement, je parlais des quartiers, justement, nous on veut mettre en place, plutôt que des conseils de quartier, bah, des assemblées générales de citoyennes, où tout le monde puisse venir, voilà, ces assemblées publiques, où tout le monde puisse s'impliquer dans ce qu'on fait des budgets municipaux, dans ce qu'on fait dans la politique de la ville, etc. Donc vraiment, redonner du pouvoir au maximum. Et également, on voudrait mettre en place, enfin, on voudrait développer l'aide administrative. Alors moi, je suis un ancien du logement social, je travaillais chez LMH, hein, pour ne pas les citer. Et moi, j'ai remarqué une chose, c'est que surtout dans les quartiers, bah, on avait des gros soucis, notamment pour remplir bah, toutes les demandes d'aide, APL, FSL, ou ce genre de choses. Et il y a tout un tas de gens qui ne reçoivent pas ces aides, qui sont des droits en fait, hein. Ce ne sont même pas des aides, c'est des droits. Et ils ne les reçoivent pas simplement parce qu'ils ne savent pas forcément comment remplir les papiers, parce que si vous avez déjà fait des demandes d'APL, etc., vous avez bien vu la galère que c'était. Je fais vite sur la dernière proposition. Donc, c'est la remise en place de la taxe professionnelle. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, la municipalité, on lui demande de faire mieux avec moins de budget, moins de financement. L'État ne dote quasiment plus les municipalités. Donc on veut que la municipalité ait du pouvoir. Et le pouvoir, ça passe souvent par l'argent, malheureusement. Donc on exige donc des mairies de faire mieux avec moins. Donc nous, on veut aussi que l'État se réengage et que les municipalités bah voilà, aient soit un contre-pouvoir vis-à-vis de l'État qui donne moins de budget aux municipalités. Ça passe par une taxe professionnelle. Alors uniquement sur les entreprises qui disposent de locaux.
Voilà, c'est les entreprises hein, qui payent cette taxe,
ça,
qui
la
payent,
ouais,
aux municipalités, ce qui abonde dans le budget municipal.
Tout à fait. Alors ça va plus, en fait, à l'époque, ça allait sur un territoire donné, hein, dont la municipalité. Alors juste un petit chiffre comme ça. Du temps où la taxe professionnelle était appliquée, c'était 50% des recettes territoriales, les amis. Donc 50%, c'est énorme. On a perdu 50%. Donc c'est aussi ça, pour ça que les mairies, elles ont plus un rond. Enfin, faut dire les choses comme elles sont. Et alors, bien sûr, cette taxe professionnelle, on pourrait aussi y mettre une échelle. Pourquoi pas que les petits auto-entrepreneurs qui travaillent dans leur garage, bah, ils ne la payent pas, tout simplement. Enfin, ça se discute encore, mais nous, on pense que c'est important que les mairies soient de nouveau avec un financement correct pour pouvoir faire ce qu'elles ont envie de faire, tout simplement.
Merci. C'est bon ?
C'est bon pour moi.
Merci beaucoup, Alexandre. Et maintenant, on peut poser la question à la dernière personne présente sur ce plateau, donc Aurélien Lecoq pour la France Insoumise.
Bon, bah, les principaux points ont déjà été abordés, puisque je pense que sur toutes ces questions, nous sommes largement d'accord, d'autant plus que c'était ce qui était dit en introduction, mais je crois que même sur ce qui a été dit avant, sur les méthodes, je pense pas qu'on ait des divergences de méthodes si importantes, puisque à la fois Hugo proposait que le programme soit co-construit et que si bien sûr le Parti communiste avait des bases programmatiques et travaillait à l'élaboration d'un programme, l'objectif était de co-construire ce programme. Alexandre expliquait également que l'objectif de Résistance Populaire était de travailler à la co-construction d'un programme de manière large et impliquante. Et moi, je disais que l'objectif était de construire un collectif qui se voulait ouvert et dans le cadre duquel il faudrait bien dessiner aussi des axes programmatiques. Donc je pense que c'est déjà un point d'accord. Nous voulons travailler à la co-construction. C'est pour ça que, effectivement, ce dont on peut faire état aujourd'hui, c'est moins d'un programme complet que d'axes programmatiques structurants, de points forts sur lesquels on a aussi envie d'axer notre campagne. Et sur ces points-là, eh ben on se retrouve. Je vais rebondir sur ce que disait Alexandre et en reprenant son dernier point. Pour nous, l'axe central de cette municipale, je l'ai dit en introduction, c'est la question démocratique. C'est la question de la souveraineté des Lilloises et des Lillois.
Et les deux autres formations ont vachement insisté là-dessus aussi hein. C'est la première chose qu'ils ont.
Mais parce que je crois qu'on fait un constat qui est commun dans la façon dont se passe notre vie et dans la façon dont se déroule la société. Je crois que le mouvement des Gilets jaunes a bien mis en évidence quelque chose, c'est que les gens avaient envie de pouvoir avoir le pouvoir sur leur vie. Et ils ne veulent pas avoir le pouvoir sur leur vie simplement parce que ça fait joli, mais parce que ceux qui sont au pouvoir actuellement n'écoutent pas le peuple, n'écoutent pas tous ceux qui
luttent
au quotidien.
Elle est sourde, Martine Aubry. Il n'y a pas de démocratie participative véritable pour vous à Lille ?
Ben, c'est à elle qu'il faut le demander, mais quand on voit comment se mènent les différents projets qui ont lieu à Lille, que ça commence par le projet Saint-Sauveur, sur lequel il n'y a aucune consultation ou alors une consultation un peu fantaisiste où toutes les associations qui sont impliquées dessus, tous les riverains finissent par prendre position contre le projet, que ce soit le cas de Faubourg de Béthune, puisque nous on a fait pas mal de porte-à-porte à Faubourg de Béthune, et à Faubourg de Béthune qui est un quartier populaire qui doit être composé à 90% de logements sociaux. Les gens nous expliquent qu'il y a un grand projet qui consiste à détruire le quartier ou à détruire une bonne partie de ce quartier. Les gens n'ont pas été consultés, ils ne savent pas où ils vont être logés. Et ils nous expliquent en plus que, évidemment, aujourd'hui, les immeubles sont insalubres, mais parce que les bailleurs sociaux, et ceux sans pression de la mairie évidemment, n'ont pas entretenu ces immeubles depuis des dizaines d'années, et que forcément aujourd'hui ces immeubles sont dans un tel état qu'il n'y a presque plus d'autre solution que de les détruire. Donc la démocratie et le fait de redonner le pouvoir aux gens, c'est un axe central, je suis d'accord. Il faut un référendum d'initiative citoyenne, il faut que les citoyens puissent s'impliquer directement dans la prise de décision politique, et puisse convoquer des référendums sur des questions qui leur semblent importantes. Mais il faut aussi que la municipalité donne le pouvoir aux Lilloises et aux Lillois. Il y a un grand sujet, on voit qu'il fait débat, et bien organisons un référendum local. On gagne la mairie, on prend le beffroi en 2020. L'un des axes, nous, qui nous paraît par exemple très important, c'est la gratuité des cantines scolaires. Voilà, je vais rajouter parmi tout ce qui a été dit avant et j'approuve tout ce qui a été dit, mais l'une des propositions que je peux mettre en plus sur la table, c'est la gratuité des cantines scolaires. Parce que c'est pas possible aujourd'hui d'étudier et d'aller à l'école lorsqu'on n'a pas les moyens de se nourrir et lorsque les parents n'ont pas les moyens de payer la cantine à leurs enfants.
Aurélien Lecoq, je vous propose qu'on fasse une petite pause là dans cette émission et qu'on vous redonne la parole tout de suite après.
On passe au rouge. Retrouvez-nous pendant 2 mois sur campuslille.com.
J'ai combien de temps ? Je suis ici. Entre le textile, le charbon, les murs de briques et les mines, les cités minières, le ciel gris, les usines, les courées, les pavés, les terrils, les crachins, le chicon, la grisaille, le brouillard et la jeanlin. J'y suis né, j'y errais, j'en ai fait tous les recoins, des plages de Dunkerque jusqu'au bistrot de Tourcoing. L'enfer du Nord, ses routes, ses trottoirs de pavés, sur mon mountain bike, j'ai roulé, roulé, à grand bas des gros bergers, ruminé, rêva passer. Les semelles de mes Nike, je les ai usées. Quand la pluie froide vient te glacer le front, te geler les larmes et te tremper le caleçon. C'est le stress, l'angoisse au rythme des saisons. 65 jours de soleil et 300 jours de dépression. À part ça, tout va bien. Chez moi dans le nord, c'était juste 16 mesures pour te planter le décor. Je suis un idiot, un vrai de vrai mon salaud. Un ch'ti, un chabert, un bourrin, un prolo. Et alors, un vrai de vrai de schlor. Je suis un idiot, un vrai de vrai mon salaud. Un ch'ti, un chabert, un bourrin, un prolo. Et alors, un vrai de vrai de schlor. De foot supporté par les skins, des élus avec des promesses à 2 centimes, une police nationale qui nous prenne pour des cobayes, police municipale qui se prennent pour des cowboys, contrôle abusif, expulsion des sans-papiers, HLM insalubre où règne la précarité, l'île, le fief, le pays des socialos, la gauche caviar, discriminante et démagogue, dans nos murs comme l'amiante, invisible et dangereuse, franc-maçonne vicieuse, paternaliste et mafieuse, ça se la raconte intègre, authentique et populaire, et à chaque mandat, ils nous la font à l'envers. Je sais pas si les Lillois ont de la merde dans les yeux, vu le ramassis de merde qui nous fout dans les urnes. Il serait temps de mettre un coup de pompe dans cette fourmilière du poison, quelques pièges, quelques souricières. Je suis un idiot, un vrai de vrai mon salaud. Un ch'ti, un chabert, un bourrin, un prolo. Et alors, un vrai de vrai de schlor. Je suis un idiot, un vrai de vrai mon salaud. Un ch'ti, un chabert, un bourrin, un prolo. Live by night, c'est pathétique à voir. À la sortie des pubs, ça dégueule sur les trottoirs. Toxico pique du zen dans les halls de gare et ça refoule les bronzés à l'entrée des bars. Je veux pas te faire l'apologie, mon code postal, le fier cul ou le chauvin à deux balles. Dans ce pays on me rappelle que je suis pas chez moi ici. J'ai mes repères, ma famille c'est déjà ça. Alors je fais ce que j'ai, même si ça me fait chier. Loin de me complaire ou d'accepter la fatalité, j'ai choisi d'ouvrir ma gueule, militer en chroniquant. Peut-être que je brasse du vent mais ça me fait passer le temps. J'en place une pour les bras d'eux et les petits pouchins. Une pour HK, mon gros rogin très très loin. Des décors paradisiaques mais finalement qu'est-ce qu'on est bien à ce baraque. J'suis un lio, un vrai de vrai mon salaud. Un ch'ti, un chabert, un bourrin, un prolo. Et alors, un vrai de vrai de schlor. J'suis un lio, un vrai de vrai mon salaud. Un ch'ti, un chabert, un bourrin, un prolo. Et alors, un vrai de vrai de schlor. Un chabert, un bourrin, un prolo. Et alors, un vrai de vrai de schlor. Je suis un idiot, un vrai de vrai mon salaud. Un ch'ti, un chabert, un bourrin, un prolo. Et alors, un vrai de vrai de schlor.
Vous êtes à l'écoute de Radio Campus sur le 106,6.
C'était bien sûr MAP avec Lilo.
Je ne sais pas si on osera la passer quand on invitera le PS, celle-là. Si on il faudra la passer.
Bon, alors on l'a largement entendu là avec vous, Aurélien Lecoq. Là, vous êtes plutôt d'accord sur des points de programme et sur la méthode.
Il a dit un truc. Toutes ces questions, nous sommes largement d'accord, y compris sur les méthodes. Pas souvent qu'on entend LFI avoir un discours comme ça, c'est bien, on est content.
Mais du coup, je peux rebondir sur d'autres questions. Par exemple, si on reste sur la France insoumise, donc on a 3 invités différents, mais c'est quand même la France insoumise qui a plus de force, car ils ont déjà 2 députés et qu'ils ont quand même fait 35% au présidentiel.
20, c'est déjà pas mal.
Aurélien m'a dit 35% sur l'île.
Attention,
j'ai rectifié à sa demande. Donc vous êtes clairement en position de force dans cette discussion à 3, mais que faites-vous du coup de la responsabilité qui vous incombe
dans l'Union?
Effectivement, après les 2 députés, le bon score de la présidentielle, il manque plus qu'une chose, c'est gagner la mairie de Lille. Donc c'est bien ça, à mon sens, l'objectif, et c'est comme ça qu'on se lance dans ce combat. Pour nous, notre responsabilité, c'est celle d'emporter le beffroi et de donner les clés du beffroi aux Lilloises et aux Lillois. C'est ça l'objectif politique qu'on se fixe pour cette élection. C'est gagner. Parce que pendant trop longtemps, toutes nos formations, mais confondues, et tous les militants qui partagent notre combat et avec lesquels on est d'accord sur le fond, on a résisté, on a lutté contre, on a essayé de se battre pour éviter toujours pire. Aujourd'hui, il faut qu'on aille de l'avant parce que tout est en train d'être détruit, c'est vrai nationalement. La situation s'empire toujours plus, c'est vrai à Lille aussi, où les inégalités continuent à croître, où les gens continuent à vivre dans la galère. Donc l'objectif politique de ces élections, c'est décadenasser le Beffroi et la mairie, en faire une maison du peuple et donc gagner l'élection. Alors comment on fait ? Si c'est à nous de proposer une méthode, c'est celle que j'ai décrite au départ. Oui, il faut l'implication des citoyens, mais oui, tout le monde est le bienvenu pour travailler à cette implication populaire et travailler à cette victoire. C'est pour ça qu'on propose un collectif décidé pour Lille, dans lequel chacun peut trouver sa place, chacun peut prendre part. C'est un collectif qui ensuite doit s'animer de manière horizontale, où chacun peut apporter ses idées, où chacun peut porter ses revendications. Mais l'idée, justement, est de ne pas refaire ce qui a été fait maintes et maintes fois, de beaux accords et des belles listes, mais d'essayer de construire plus large avec tous les acteurs locaux et tous les citoyens qui le veulent.
Merci beaucoup. Donc du coup, je me tourne vers Alexandre Chantry, oui, qui n'a pas eu l'air très convaincu par la prise de parole d'Aurélien. Donc vous avez quand même créé une nouvelle formation, alors que finalement, les formations des trois personnes présentes ici sont très proches, et vous n'aviez pas l'air d'accord avec Aurélien. Donc.
Nous, dans notre démarche, on est vraiment parti de plusieurs constats, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure et je l'ai évoqué. C'est notamment qu'on a tout un tas de citoyens qui sont intéressés par les questions politiques, mais qu'ils n'investissent plus, que ce soit les organismes syndicaux ou politiques. Donc comment on fait ? Nous, on était partis dans l'idée d'une vraie fédération populaire. D'ailleurs, tous nos événements, nos réunions étaient publiques. Moi, j'avais rencontré certains camarades de l'AFI, certains camarades du PC. Je leur ai dit, venez travailler avec tout le monde. Pas avec nous, d'ailleurs. C'était de travailler avec tout le monde. Nous, on est simplement l'organe qui réservons la salle, mettons en place des tracts, mettons en place des visuels. Mais on n'a pas la main sur le collectif. Le collectif doit avoir la main. Et c'est là où j'étais pas forcément d'accord. Parce que un collectif citoyen qui clairement est lancé par la France Insoumise, comment la France Insoumise ne peut pas être en position de force dans ce collectif citoyen ? Et peut-être, et c'est là où moi je peux avoir peur, et certains citoyens peuvent avoir peur, c'est peut-être que la FI au final ne s'inscrira pas dans une vraie horizontalité. Et sur cette question-là, nous on a lancé...
C'est-à-dire, soyons précis, Alexandre Chantry, vous avez peur que votre formation politique soit écrasée, soit illisible, invisible en cas d'alliance, c'est ça ?
C'est pas vraiment en fait. Hein, pas... Il y a un peu de ça, mais moi je rappelle quand même la note de bloc de Jean-Luc Mélenchon et la note de la France Insoumise. Nous appelons, ça datait de juin et de juillet, hein, d'ailleurs pour la date exacte je ne l'ai plus en tête, mais c'était dans ces eaux-là. Nous soutiendrons des collectifs citoyens pour les municipales de Lille dans l'objectif de fédération populaire. Nous on y est clairement dedans. Bizarrement, on a vu très peu de camarades de l'AFI, on a vu des camarades du PC, on a vu des camarades d'autres partis, etc. dans nos réunions. On s'attendait réellement à construire horizontalement. Et malheureusement, nous, aujourd'hui, on est bien forcé de constater que malgré les appels, les signaux qui ont été envoyés, on a très peu de travail en collectif aujourd'hui avec Décidé pour Lille.
Mais je permets juste de répondre, hein, mais je ne comprends pas bien. Pour moi, quand Résistance Populaire s'est créée, et telle que j'en ai vu la création, ça avait comme objectif la convergence des luttes et des résistances. Pour moi, c'était l'objectif clamé et proclamé. Et en ça, je pense que c'est une très bonne chose qu'il y ait pu y avoir cette coordination des luttes, qu'il y ait pu y avoir cette organisation commune de manifestations, ce travail qui a été fait pour faire converger, par exemple, les Gilets jaunes et les marches climat. Mais Résistance Populaire, en tout cas à sa création, moi j'y avais pas compris en tout cas, qu'il s'agissait de la création d'un mouvement politique et d'un collectif pour partir sur les élections municipales.
Lorsqu'on lance la page, lorsqu'on lance en effet les objets de communication, il y a un texte de présentation, une charte qui est lancée. C'est écrit dans les trois premières lignes.
Que vous feriez une liste municipale ?
La question de la liste, elle n'est pas encore posée, elle n'est pas encore débattue, elle n'est pas encore décidée, c'est le collectif qui le décidera. D'accord. Par contre, l'ambition et l'objectif de Résistance Populaire étaient dans les trois premières lignes du texte de présentation. Nous voulons agir politiquement sur la question de la municipalité et plus loin derrière.
Ok, mais la question qu'on vous pose maintenant ce soir dans cette émission sur Radio Campus, c'est de savoir, vous, Alexandre Chantry, avec Résistance Populaire, et donc ce groupe de personnes, est-ce que vous voulez partir vers une alliance avec des forces politiques qui sont proches, comme on en a fait la démonstration précédemment, ou est-ce que l'idée, c'est d'y aller tout seul pour afficher une singularité ?
Non, nous, clairement, on est dans l'objectif d'une fédération populaire, une alliance où, sans poser certains termes, sans poser certaines questions de programme, sans poser aussi certaines questions de qui va y aller, des mandats, des personnes qui seront mandatées. Nous, de toute façon, toutes ces questions-là, on va les poser. On va clairement discuter collectivement avec tous les membres de Résistance Populaire. Et s'il y a des propositions d'alliance, s'il y a des propositions de discussion, de toute façon, on va les voter en Assemblée Générale systématiquement.
Et étant donné qu'on parle du coup de dialogue entre les différentes organisations, est-ce que, Hugo, au PCF, vous avez eu des discussions avec d'autres?
Oui, alors, vous nous avez expliqué votre démarche de courrier, là, hein, c'était au mois de début juillet, mais est-ce que vous êtes allé plus loin parce que...
En fait, à la fois plus loin et à la fois même bien avant ça, puisque d'abord, le PCF participe à un collectif qui s'appelle le Dialogue des Gauches. Ça fait déjà, en fait, on y participe depuis sa création, donc il y a un peu plus de 2 ans, enfin à peu près 2 ans que ça existe, et dans laquelle viennent ceux qui ont envie. Et donc là, on y croise des gens de génération, on y a croisé une fois une personne de la France Insoumise, et jusqu'à ce que... Enfin, en gros, c'était la fois où la France Insoumise était représentée. Voilà, en tout cas, des gens d'Europe Écologie Les Verts, de Génération, du Parti Communiste, de la Coordination Communiste, des forces qui existent, du NPA, le NPA est présent aussi, enfin, voilà. Et donc, on essaie le plus possible d'être dans les instances de dialogue, de rencontre et de construction. La France Insoumise, c'est quand même... on n'en est pas à une rencontre, on en est quand même à pas mal de rencontres de ces 2 dernières années. Avec Aurélien, effectivement, on s'est rencontrés dans des rencontres officielles, je veux dire, entre le Parti Communiste Français... et la France Insoumise. On s'est rencontrés il y a 2 semaines, je crois, avec Alexandre dans une rencontre bilatérale, entre guillemets, entre Résistance Populaire et le PCF. On a rencontré presque tout le monde. On essaie de maintenir le dialogue le plus possible, à la fois dans des bilatérales et dans des espaces collectifs. Et donc, on va continuer.
Vous, au PCF, est-ce que y a quand même l'idée de partir un peu tout seul? Il y a cette idée-là, c'est possible, ça?
Non, il n'y a pas cette idée-là.
Ça sera forcément dans une alliance.
En gros, je vais pas tourner autour du pot. Nous, il nous semble que dans le contexte aujourd'hui, ce qui est le plus important, c'est au contraire le rassemblement le plus large possible. Mais par contre, sur du fond politique. Et il s'agit de donner de l'espoir. Hein. C'est majeur. En 2014, on a fait... pas que chef de file, j'étais tête de liste du Front de Gauche. Je veux dire, on avait un programme qui était identique. On a tous les points qu'on a cités quasiment, ils sont déjà dedans. Service public, ouais, c'est une blague. Je veux dire, c'est quand même.
En 2014, c'est notre ADN. Le PCF part avec le parti de gauche, je crois bien, qui a donné la LFI, qui a donné décidé ensemble la Ligue.
Voilà, avec,
c'est ça, dans ce qui s'appelait encore, je me souviens
le
même
Front
plus.
De Gauche.
Ah voilà, le Front de Gauche.
Voilà. C'est une très belle expérience, hein, moi, dans laquelle j'ai aucun regret. C'est plutôt sa fin que je regrette. Mais aujourd'hui, effectivement, il faut à la fois avoir du contenu politique, mais donner de l'espoir. Et c'est le mandat aussi qui va se mettre en œuvre, qui va donner de l'espoir. Tout va pas se jouer pendant une campagne, hein. Faut arrêter de rêver, les copains. Je veux dire, on va pas croire là qu'en 6 mois, on va réveiller 50% d'abstentionnistes qu'on a jamais réussi à réveiller pendant des années. Je veux dire, les gens, ils sont déçus. Même s'ils croient en nous, ils vont dire « Bon, ok, je vais vous regarder à l'œuvre. Je vais pas me déplacer, mais je vais vous regarder à l'œuvre. » Et donc, ça veut dire que demain, est-ce qu'on va être capable, quand on sera à l'œuvre, parce que j'espère qu'on le sera, de dire, effectivement, vous le faites. Et là, du coup, peut-être, je reviens, je participe, je serai des vôtres. Et c'est ça aussi, c'est pas que là, pendant 6 mois, hein, je veux dire, 6 mois, là, c'est que dalle. C'est toute la suite, c'est les années qui nous attendent. C'est le mandat qui va s'exercer. Et puis, toutes les autres échéances, hein, genre, on a un monde à changer, les copains, quoi. Je dis ça sans plaisanter, sans exagération, quoi. Donc, pour moi, c'est vraiment important. Là, ce que j'entends de la France Insoumise, bah oui, je le vois d'un bon oeil, sauf que c'est tout nouveau. C'est-à-dire, j'ai rencontré Julien Poix, effectivement, mercredi de la semaine dernière, avec une proposition qui est nouvelle, qui n'est pas celle que m'avait faite officiellement la France Insoumise et qui avait été faite au Parti communiste français, hein, pas à moi, Hugo Vandamme.
C'était quoi la première proposition de Lille.
En fait, je l'ai dans les yeux, hein, lettre donc datée du 18 septembre 2019, en gros, qui redit que la France insoumise a adopté une base programmatique nationale sur les exigences nationales, qu'elle souhaite mener une démarche volontairement indépendante des discussions d'appareil, dans lesquelles, du coup, en gros, c'est...
Ça veut dire on ne cause pas avec vous. Ouais, et depuis, ça a changé.
Ça veut dire, c'est pas tout à fait ça que ça veut dire.
C'est ça que ça voulait dire. C'est-à-dire
c'est comme ça que vous l'avez compris.
En tout cas, peu importe. Ça, c'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est la démarche de maintenant de LFI.
Julien Poix m'a dit mercredi dernier, effectivement, c'est vrai, la démarche dans laquelle nous inscrivons désormais n'est pas à l'identique de la réponse que j'ai reçue. Donc, c'est pas une insulte.
Non, je le prends pas comme une insulte. Mais... c'est la temporalité aussi qui a changé. La France insoumise a d'abord adopté sa démarche nationale et la façon dont on allait avancer. Là-dedans, c'était les positions de la France insoumise. Il y a une base programmatique, mais qui est une base programmatique nationale qui fixe des caps, des lignes rouges et qui montre quel est le fond de notre pensée. On y retrouve les cantines gratuites, la gratuité des transports, etc. Mais évidemment, tout ça ensuite doit être travaillé à des déclinaisons locales et puis doit être enrichi, modifié, relu par les citoyens. Ensuite, sur les discussions d'appareil, ce que ça veut dire, la façon dont moi je le comprends en tout cas, c'est qu'effectivement, on doit passer une étape supplémentaire, on doit passer une nouvelle étape et qu'on ne refera pas le front de gauche qui... a fait des choses superbes et qui a été aussi une grande aventure et qui, à mon avis, même a été nécessaire pour en arriver là où on en est. Mais là, l'objectif est plus de refaire ce qu'Alexandre appelait hein, une tambouille de parti et de politicard. L'idée là, c'est de dire voilà, on lance un collectif, on essaye de créer un collectif, mais dans lequel, bien sûr, tout le monde est le bienvenu. Et les militants politiques et les organisations politiques peuvent aussi travailler dans ce collectif et il n'y a pas de problème. Mais c'est juste pour dire qu'il ne faut pas forcément voir les deux comme les deux points que tu as présentés comme deux antithèses frontales.
C'est une évolution.
Percevez une évolution en tout cas.
Même de.
Pour moi, il y a une forme de cohérence. Mais bon, après, c'est pas.
De la part de votre chef de file qui devait être présent ce soir, c'est une évolution. Donc je retiens ce point-là et je le vois comme quelque chose de positif.
Alexandre de Rechantry.
C'est le principal.
Moi, je voulais revenir sur résistance
populaire. Tant que c'est
positif. Si tu me laisses parler. Je voudrais revenir quand même sur un point qui me paraît essentiel de toute façon. C'est qu'en face, on a Spielboot qui a déjà sa liste, qui a déjà son programme et qui est déjà bien en place, les amis. C'est quoi qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on attend ? Qu'est-ce qu'on va regarder ? Et au final, est-ce qu'on va laisser Spielboot gagner la mairie ou Martine Aubry repasser ? Moi, personnellement, je ne suis pas forcément en désaccord complet avec ce qui s'est passé à Mairie d'Ille depuis 20 ans, mais par contre, oui, je pense que le bilan est plutôt négatif et qu'il faut maintenant, en effet, un nouveau cap pour la Mairie d'Ille. Donc, on a une responsabilité, là, tous autour de cette table. Nous, de toute façon, ça passera sur une base programmatique de toute façon, et c'est là où, en effet, je suis assez surpris, parce que tout à l'heure, Aurélien parlait de co-construire le programme. D'ailleurs, j'ai appris un nouveau mot aujourd'hui. Ok, mais s'il y a déjà un programme national qui doit se décliner au local, je sais pas, quoi, enfin... Pourquoi vous ne faites pas un programme lillois, point barre ? Pourquoi attendre toujours que Paris donne les tracts, que Paris donne les programmes, que Paris donne les idées, que Paris donne son ordre du jour pour vos réunions communales ? Non ! Il y a aussi ça dans la politique moderne qui pose problème, le parisianisme. Il faut que, politiquement, pour qu'on retrouve de la démocratie au local, il faut que les Lillois décident pour les Lillois. On n'a pas besoin de Paris. C'est vraiment un message que j'adresse.
Je vais devoir vous couper. On en parlera. On parlera d'autres choses juste après. J'imagine bien. J'imagine bien. Mais là, il faut qu'on avance. Je suis désolé, mais j'imagine
juste
bien.
Pour répondre très 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 rapidement.
Quelques secondes, Aurélien Lecoq.
Alexandre, je veux bien que tu règles tes comptes avec la France Insoumise et avec son fonctionnement. Il n'y a pas de problème.
Sans agression.
Moi, je parle de fond. Toi, tu me parles de rhétorique.
Écoutez, on va faire une petite pause.
Ce que je retiens de ton intervention, et là où tu as raison, c'est qu'il y a urgence à ce que les choses changent, qu'on ne peut pas laisser Spielboot gagner et Martine Aubry repasser, et que donc il faut construire quelque chose, et qu'il faut prendre la mairie. Je crois que là-dessus, on est d'accord. Et je le répète, on propose la création d'un collectif dans lequel d'autres collectifs peuvent s'inclure sans aucun problème et dans la discussion.
Avec leur étiquette, logo,
avec comme mot d'ordre l'implication des citoyennes et des citoyens.
Avec leur étiquette, logo et tout.
Ah bah moi je veux bien qu'on relance le
non,
débat.
Non, juste, hein, oui ou non quoi, oui ou non.
Joli notre logo quand même.
L'objectif, c'est effectivement d'éviter ce que tu disais tout à l'heure, à savoir de faire une belle ribambelle
ça,
de
ça
logo.
Veut dire non. Okay.
Et mais ça veut dire aussi que on envoie un signal aux citoyens, dire venez, appropriez-le-vous.
Allez, on se fait une pause. Et après ça, je suis sûr qu'on sera tous copains, c'est sûr.
Radio Campus Lille, disponible en DAB+.
Approchez, approchez! On va lancer le Big Bisou. Big Bisou en anglais, ça veut dire gros baiser. Quand je vous le dirai, donnez-vous un baiser moelleux à l'endroit que je vous indiquerai. Nos grands-pères et nos grands-mères faisaient tellement de manières qu'ils mettaient parfois jusqu'à 100 ans pour s'embrasser. C'est un souvenir du joli temps passé, dépassé.
Alliez-vous au Big Bisou.
Et d'abord, sur la main, style ancien, noble et tout. Attention, sur la main, embrassez-vous. Stop.
Big Bisou.
Après, de plus près, sur la joue. Attention, sur la joue, embrassez-vous. Stop.
Big bisou, big bisou.
Les parents de nos parents étaient quelquefois marrants. Ils pensaient que les bébés, ça vient en s'embrassant. C'est un souvenir du joli temps d'avant. Mais maintenant,
s'en fout, big bisou.
Plus hardi, le pipi dans le cou. Attention, dans le cou, embrassez-vous. Stop,
big bisou, big bisou.
Enchaîné sur le nez, en bas dessous. Attention, sur le nez.
Bisous, big bisous.
Les timides et les maladroits n'osent pas faire le premier pas. Méfiez-vous, plus rien n'est défendu quand on fait la danse du
big bisous, big bisous.
Émotion, grand frisson sur la bouche. Attention, sur la bouche, embrassez-vous. Encore, 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 encore. Stop.
Big bisou, big bisou.
Sur la main, style ancien, noble et doux. Avec bisou, juste après.
Carlos, big bisous.
Passe au rouge, chaque lundi de 19h à 20h sur Radio Campus en 6,6.
Je pensais pas la désannoncer un jour, celle-là.
Tu l'as hyper bon. Bien désannoncé.
On l'entend là, on l'entend encore. Il y a de la convergence dans tout ce que vous dites. Bon, il y a aussi des points un peu de désaccord,
oui,
c'est sûr.
On passe
mais...
une dernière minute oui. avec notre plateau politique donc des forces de gauche à Lille, la France
Damme.
Insoumise. Alors lui, c'est le PCF. Il y a
Alexandre
Audrey
Lecoq. Aurélien Lecoq pour LFI.
C'est le
à la limite, laisse-moi faire. C'est mon boulot de résistance populaire, ben Alexandre Chantry. Bon, c'est quoi la condition importante pour que toutes ces formations s'allient?
Hugo, pour le PCF, qu'est-ce que tu répondrais?
Il faut quoi pour que ça marche?
Qu'est-ce que vous attendez, bordel? Enfin, un truc comme ça, c'est comme ça qu'on parle entre militants. Quoi.
Très parce rapidement, qu'il... en trois mots.
Wow.
Ouais,
considération.
Ah.
Considération, oui, donc le respect et puis et le dialogue. Et je pense qu'avec ça, on pourra avancer.
Mmh. Alexandre,
ouais.
Alors bah, moi ça va être surtout de travailler des galas égales, parce que en effet nous on est tout jeunes, on débute, mais on amène dans notre structure des gens qui n'ont jamais fait de politique, des gens qui sont conscientisés, qui sont politisés, mais qui ne sont jamais allés dans aucun parti, donc ils n'ont pas forcément les normes, les habitudes de militants politiques. Donc vraiment travailler d'égal à égal et d'être dans une volonté réellement de fédérer, quoi.
Aurélien.
C'est frappant, Aurélien Lecoq, hein, quand vous entendez ce qu'ils disent là.
Là, c'est vraiment
LFI, ils ont peur
là,
d'être déconsidérés en réalité et écrasés par la supériorité réelle qui est celle de votre force politique dans ce contexte.
Ben je comprends hein, là le à la fois l'enjeu. Ben je crois avoir pendant l'émission dit justement plusieurs fois hein, qu'il s'agissait de construire ensemble. Nous, la condition pour pouvoir avancer, c'est qu'on soit d'accord sur la méthode et sur ce qu'on a envie de faire de cette élection. C'est-à-dire qu'on soit d'accord pour se dire voilà, l'objectif de l'élection, c'est de gagner la mairie de Lille. Les objectifs programmatiques de fond sont communs et surtout qu'on puisse se mettre d'accord sur la démarche et de dire la démarche, c'est l'implication des citoyens, la démarche, c'est rendre le pouvoir aux Lilloises et aux Lillois, c'est faire élire des habitantes et des habitants qui ne sont pas membres de partis politiques, de syndicats, d'associations, voilà. Et je pense qu'à partir du moment où il y a un accord sur la démarche, ben évidemment, on peut travailler ensemble et on peut travailler avec tout le monde. Et je crois que cette démarche, cette construction d'une démarche collective à l'intérieur d'un collectif, et justement pas à l'intérieur de la France insoumise ou avec juste une alliance de la France insoumise avec les autres, là où nécessairement il y aurait un rapport de force. Je pense que la construction d'un collectif, c'est aussi une manière de faire en sorte de respecter toutes celles et tous ceux qui y viennent, membres de partis politiques, d'associations, de syndicats, comme citoyennes, citoyens, habitantes et habitants. Et je crois que sur cet enjeu, il y a quand même une sorte de consensus relativement large, parce que je pense que tout le monde a bien compris quel était l'enjeu et où est-ce qu'il fallait aller.
Ok, si vous écrabouillez pas, donc il y a peut-être moyen, si vous comprenez bien quoi. Hein. Voilà, voilà, bah, on va remercier nos invités.
Absolument, merci Hugo Vandamme pour le PCF d'être venu.
De rien, merci beaucoup à vous de nous avoir invités.
Bien sûr, Alexandre Chantry pour Résistance Populaire.
Merci, merci à vous surtout. Est-ce que je peux quand même faire une petite annonce?
Oui, deux secondes. Hein.
Donc, donc on a toujours le collectif Selom et Matisse qui se bat en ce moment.
Le collectif Selom et Matisse avec ces deux gamins qui sont morts tragiquement, et c'est il y a un an à peu près maintenant, là, dans des circonstances policières, disons.
Tout à fait, et nous on veut plus que ça se reproduise et que les mairies notamment s'engagent sur ce genre de questions. Donc demain, rendez-vous 19h au cinéma L'Univers pour parler de questions notamment de violences policières.
Merci Aurélien Lecoq pour la France Insoumise.
Merci de l'invitation.
Pas de problème, en tout cas, on passe au rouge, c'est terminé, parce que rien n'a encore changé avec Milky. Va commencer.
Dans quelques instants.
Vous vous rendez compte que votre plateau est toujours surreprésenté par la gauche?
On veut bien être gentil,
que Véran.
Mais pas con.
La première chose qui te saute aux yeux, les briques, c'est les briques rouges.
C'est le capitalisme.
Jouez pas au con avec
lui. On est trop gentil.
Le rouge, c'est la couleur du sang, le rouge, c'est la couleur des Indiens, c'est la couleur de la violence.
On est gentil, hein? On est toujours gentil.
C'est le capitalisme.
Arrête-toi.
Mais le rouge, c'est aussi la couleur du vin. Le vin qui dit vin, qui porte vin. Parce que tout ça, c'est magouille et compagnie, c'est politico. Tu vois, c'est des histoires de fric.
Je vote pas pour les capitalistes, hein.
Boche
ouvrier.
On est trop gentil.
Pour prévenir tout simplement que la mobilisation pour les hôpitaux et la réouverture de la maternité de Tourcoing se dérouleront donc demain, le mardi 15 octobre, à 14h30, tout simplement.
Merci Kenzo.
En attendant, si vous avez encore le temps, mais vous avez toujours le temps, vous êtes auditeur de Radio Campus, vous n'avez que ça à faire. Chaque premier mercredi du mois, vous pouvez écouter le BCE. Chaque mercredi à 18h30, c'est l'heure de le mettre. Et puis le vendredi, des flips et des flops à 13h. Chaque samedi à 7h, la matinale de l'Académie ESJ. Oh mon Dieu, mais pourquoi tu m'as entouré ça? C'est une vraie blague que tu me fais. Je vous rappelle que nous, on a nos propres jeunes dans cette émission, la Krasnaya Shkola.
Merci à Massilia, merci à Gros Dada, merci à
Gros
Seb.
Bisous.
Et puis c'est Milky, là, dans une seconde, bien entendu. La soirée continue sur Radio Campus 106,6 et nous, on se retrouve lundi à 19h.